Les réformes scolaires ou l'ère du vide, premier volet. Elisabeth Borne, Madame la ministre de l'Éducation, inscrira-t-elle sa politique dans les pas de celle insufflée par ceux qui l'ont précédée ces deux dernières années, dont le jeune et vaillant Gabriel Attal et sont devenus précocement célèbres au choc des savoirs? Quoi qu'il en soit, le projet visé, la finalité de l'éducation, la dimension politique de tout projet éducatif ne sont-ils pas les points aveugles de toutes ces réformes? La focalisation des regards sur le système éducatif, sur son organisation, sur l'efficacité ou l'inefficacité des méthodes utilisées, ne témoigne-t-elle pas de l'autonomisation du projet programmatique, de la méthode donc, par rapport au projet visé, à la dimension culturelle de tout projet éducatif, à sa dimension politique, qui appartient à l'ordre des finalités? N'y a-t-il pas réification du projet visé, de la culture, par la méthode? Ce point est particulièrement sensible dès lors que l'on considère que la culture, tout comme la dimension politique de tout projet, traduisent un authentique désir de transformation du monde, dans ce sens où le désir de connaître se réalise dans la violence faite à ce qui apparaît. La réification du désir telle qu'elle prend forme dans les mots d'ordre ministériels qui font office de projet visé empêche tout mouvement utopique et retourne l'énergie politique de transformation du monde contre elle-même, en lui faisant emprunter les voies de l'organisation en vue de mettre en œuvre les réformes contre celles de l'institution imaginaire de la société, en référence à Castoriadis. Qu'attendre des réformes éducatives dans un monde au projet de société sclérosé? On s'agite beaucoup contre le mal fait à la connaissance par les compétences, et nous y avons consacré de nombreuses chroniques. C'est un fait que le terme envahit une bonne part de l'espace discursif au détriment, souvent, du sens, de la valeur. Il est vrai aussi, et nous l'avons maintes fois souligné, que l'ordre des compétences a été imposé, comme pour mieux rationaliser les formations relativement aux finalités du management contemporain. Certes, mais l'approche par compétences a aussi permis aux enseignants d'affiner leur regard didactique et leur réponse pédagogique, de dépasser la valeur marchande sacrée de la note, parfois, pas toujours, car le sacré est ancré dans des habitudes aux voies souvent impénétrables. Plus fertile serait, selon nous, la critique d'une didactique totalement versée dans une approche techniciste de l'enseignement et, notamment, de la transmission du savoir. C'est à la faveur de ce champ particulier du scientisme, devenu le domaine réservé d'experts de la chose à transmettre, que l'approche par compétence a foisonné. Pour ces experts de la chose à transmettre, la pédagogie apparaît comme le résidu d'une totalité pas encore totalement réduite, d'un enseignement pas encore totalement scientifique, d'un métier encore insuffisamment instrumenté. L'intelligence artificielle, de ce point de vue, représente l'aboutissement, voulu ou non, car l'autocroissance technique repérée par Ellul en un autre siècle sévit sans fléchir, cette IA représente donc l'aboutissement de cet écrasement du métier comme de la relation éminemment dialectique qui lie l'éduqué au formé et à la totalité. Les réactions contemporaines qui semblent très largement approuver, d'une manière ou d'une autre, l'idée d'un choc des savoirs, aussi politiquement éparpillée soit-elle, s'accordent exactement sur un point aveugle, le déni de réalité. Des enfants sont empêchés d'apprendre à lire, alors que nombre d'étudiants ne semblent pas en mesure de lire. Des enfants sont empêchés d'apprendre à écrire, alors que des étudiants ne semblent pas en mesure d'écrire. Des enfants ne veulent plus aller à l'école, alors que des étudiants ne veulent plus aller en cours au-delà de la troisième année, y compris ceux de l'école polytechnique d'ailleurs. La réussite est une de ces réifications politiques, un de ces projets politiques foncièrement sclérosés. Nos projets éducatifs visent tous, en effet, la réussite du plus grand nombre, mais dans un monde ultra-compétitif auquel aucun projet politique ne semble vouloir faire violence. Le projet politique dans lequel nous manœuvrons s'établit sur l'articulation fantasmée des réussites individuelles, sans considérer la nature foncièrement compétitive de notre économie politique. Or, apparaît au grand jour l'anachronicité de ce projet politique. Les réussites individuelles ne font pas socialement recette. Réussir individuellement dans un monde insensé ne fait qu'ajouter au contraire à l'absurdité d'un monde qui apparaît, précisément, tellement absurde que ceux qui s'y pensent les plus lucides politiquement parfois refusent d'y faire naître de nouveaux individus.